sudafrique.com. Géopolitique. François Bernard.
Bonsoir, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de Géopolitique. Nous sommes le 14 juillet, jour de la fête nationale en France. Les anglo-saxons appellent ce jour le Bastille Day, le jour de la Bastille, puisque ce 14 juillet 1789 est devenu le symbole de la révolution qui, cette année-là, a bouleversé l'histoire de la France. S'il est difficile de dater précisément le début et la fin de cette révolution française, il est indéniable que cette période de changement profond a eu et continue d'avoir une influence sur le désir des peuples de s'émanciper d'un pouvoir oppressant, de voir respecter davantage les droits humains ou de conquérir de nouvelles avancées sociales. 1789 est devenu un référent incontournable dans le monde quand on parle libération, révolution, ou instauration d'un régime progressiste. Alors quelle est la part réelle de cette influence supposée ? La Révolution française continue-t-elle d'alimenter le désir de démocratie, de liberté, d'égalité, de fraternité ? Dans Géopolitique aujourd'hui, nous discutons de l'écho de 1789 dans l'histoire du monde avec deux invités, je vous les présente tout de suite. Bertrand Badie est professeur des universités en sciences politiques à Sciences Po, auteur de très nombreux livres. Le dernier s'appelle « Le temps des humiliés », publié chez Odile Jacob. Et puis vous co-dirigez un état du monde annuel aux éditions de La Découverte avec Dominique Vidal. Bonsoir Bertrand Badie.
Bonsoir.
Jean-Numa Ducamp, j'ai lui maître de conférences en histoire contemporaine à l'université de Normandie à Rouen. Il est l'auteur de nombreux livres également. Le dernier a pour titre « La Révolution française et l'histoire du monde ». Deux siècles de débats historiques et politiques, 1815-1991, c'est édité chez Armand Collin. Bonsoir Jean-Numa Ducamp.
Bonsoir.
Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation.
Géopolitique.
Alors on va évoquer le passé bien sûr dans un premier temps et comprendre les répercussions que la révolution de 1789 a eu sur l'histoire du monde jusqu'à aujourd'hui. En préambule peut-être et pour poser le contexte de notre conversation, on pourrait faire un court récit chronologique de cette révolution dite de 1789. Alors la question à l'historien bien évidemment et une réponse en allez, 2 minutes maximum.
Bon, 1789, c'est une date clé pour l'histoire de France et pour l'histoire du monde. Évidemment, il y a quelques grandes dates auxquelles on pense spontanément. Le 14 juillet, la prise de la Bastille, vous l'avez dit. Il y a le 26 août 1789, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Un peu plus tard, mais fondamental, compte tenu du fait que nous sommes toujours en République et qu'un certain nombre de républiques dans le monde s'en sont inspirées, le 21 septembre 1792... la Première République. Et ensuite, je dirais, un des enjeux de cette révolution, ce sont les acteurs. Évidemment, il y a les grands, il y a Mirabeau, Robespierre et Napoléon qui clôt le cycle. Et puis, il y a des acteurs sociaux et politiques, plus largement, les sans-culottes, la paysannerie. Vous avez évoqué la prise de la Bastille. Juste après, il y a ce qu'on appelait la Grande Peur, ce soulèvement massif de la paysannerie qui a abouti à l'abolition des privilèges le 4 août 1789. Donc, une série d'événements, une série de grands acteurs qui ont bouleversé l'ordre politique, économique et social français. Et qui surtout, par rapport à d'autres processus révolutionnaires, la spécificité c'est d'avoir proclamé des principes, bien sûr pour le peuple français, mais aussi plus largement pour les pays alentours, voire pour le monde, pour l'humanité entière. Et c'est ça qui a fait probablement une des singularités de la Révolution française. Et une des dernières grandes questions chronologiques, c'est quand est-ce qu'elle s'arrête ? Et s'est-elle arrêtée un jour d'une certaine manière, du moins si on raisonne jusqu'aux années 1990 ? Et ce qui est certain, c'est que dès le départ, 1791, un acteur de la Révolution dit « il faut terminer la Révolution française ». Elle a été assez loin, c'est Barnave. 1792 avec la République, d'autres diront « ça suffit, si je puis dire, nous avons eu assez de choses ». Et puis il y aura la période dite de la Terreur, et puis il y aura Napoléon après. Et puis il y aura d'autres révolutions plus tard, 1830, Trois Glorieuses, 1848, la Commune de Paris, 1871, et puis d'autres révolutions dans d'autres pays ensuite. Donc la chronologie resserrée et à un caractère d'évidence, la Déclaration des droits de l'homme, le 14 juillet, la République, Napoléon ferme quand même le banc, si je puis dire, encore qu'à l'étranger, certains le considèrent comme la meilleure héritier de la Révolution française. Et puis ensuite, voilà, d'autres révolutions s'en réclament. Donc d'une certaine manière, elle ne s'est pas arrêtée chronologiquement, là où on peut la faire arrêter classiquement, donc avec Napoléon en 1799 ou bien 1815, lorsque l'Empire français s'effondre.
Qu'est-ce que on peut ajouter à ce portrait express, Bertrand Badie ?
C'est difficile, parce que c'était un portrait très exhaustif et impressionnant dans sa constitution. Je ne suis pas historien, même si je suis abrité par les ailes de l'histoire dans la réflexion de sciences politiques, mais l'événement pour moi internationaliste et politiste, il est double. C'est d'abord l'invention de la nation et du nationalisme, mais, et c'est important de le rappeler en ces temps de populisme et d'ethno-nationalisme, je dirais le vrai nationalisme, c'est-à-dire le nationalisme comme conquête de droit, c'est-à-dire la nation qui s'affirme contre l'absolutisme et qui, sur cette lancée, va s'affirmer ensuite contre toutes les formes d'oppression et de domination, c'est-à-dire contre les empires, puis contre les tutelles coloniales, puis contre les formes d'hégémonie. On voit effectivement cette idée de nation se construire dans un nouveau profil donné à la souveraineté. C'est-à-dire, désormais, c'est la nation qui est souveraine. C'est donc la conquête de droit par excellence. Par parenthèse, aujourd'hui, le nationalisme, c'est exactement l'inverse. Il n'est plus conquête de droit, il est privatif de droit, il est enfermement, il est rejet des autres. Bref, tout ce que nous connaissons dans l'aventure présente de l'ethno-nationalisme, surtout en Europe. Et en même temps, cette nation, et c'est ça qui, pour un internationaliste, est extrêmement important, va s'approprier les relations internationales. Les guerres avant la Révolution française, c'était des tournois entre dynastes, entre rois, eux-mêmes liés par des rapports de cousinage souvent étroits et complexes. Là, cette strophe extraordinaire du chant du départ, tremblez ennemis de la France, roi ivre de sang et d'orgueil, le peuple souverain s'avance, tyran descendez au cercueil. Ce qui veut dire beaucoup de choses en même temps. C'est-à-dire en même temps, la nation, le peuple s'approprie la guerre et les relations internationales, et celles-ci ont désormais une finalité qui n'est plus une finalité de compétition de puissance, mais de conquête de nouveaux droits. C'est-à-dire les soldats de l'an 2 qui vont aller libérer les autres peuples du despotisme. Le jeu international a pour nouveau sujet les peuples et non pas les despotes. Ça, c'est aussi une marche de l'histoire extraordinairement importante. La guerre va être socialisée, les relations internationales vont être socialisées, les sociétés commencent à entrer sur le ring politique.
Ce serait le début de la mondialisation, d'une certaine manière, si je vous entends bien. Jean-Humain Ducasse, quelles étaient les promesses de cette période qui auraient ou qui ont survécu jusqu'à nos jours, selon vous ?
Alors la promesse, si je puis dire, originelle, qui est transcrite ensuite dans la devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, cette promesse-là, qui a été proclamée dans un contexte très précis, a quand même eu une vocation majeure, c'est celle de poser des principes généraux susceptibles d'extension, si je puis dire. Ça a été dit, sous-entendu, mais il faut rappeler que la Révolution française a aussi aboli l'esclavage en 1794. C'est important de le dire, car Napoléon l'a rétabli juste après. Parfois, on peut lire que l'esclavage a été suspendu. Non, non, il a bien été aboli par la Convention nationale, puis rétabli ensuite. Et donc, les principes qui ont été énoncés à ce moment-là ont été, d'une certaine manière, au-delà même de ceux qui les ont prononcés au départ. L'abolition de l'esclavage est un bon exemple. Ce n'était absolument pas prévu au début de la Révolution, la République non plus. Et de fil en aiguille, de ce moment-là, jusqu'à nos jours, vous avez eu des moments où on s'est réapproprié la Révolution française parce que ça apparaissait comme un point de référence, comme rupture avec l'ordre existant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin nécessairement de bien connaître toute la Révolution française, toute sa chronologie, pour se réapproprier son héritage, parce qu'elle renvoie à un imaginaire. Alors parfois, on peut dire, l'historien peut faire la contre-expertise, « Ah mais vous dites un peu n'importe quoi sur la Révolution française, c'était pas ça dans son contexte. » Peut-être, je dirais, mais l'important, avec les valeurs émises par la Révolution française, c'est qu'ensuite, on peut voir ressurgir son message à différents moments. Si vous prenez des exemples plus contemporains, par exemple, certains ont essayé de penser le début des révolutions arabes en analogie avec la Révolution française. Non pas pour dire que c'était exactement la même chose. Évidemment, la situation de l'Égypte et de la féodalité en 1789 en France n'a d'une certaine manière pas grand-chose à voir. Mais ce qu'il y avait de commun, c'est l'idée selon laquelle un ordre politique est en train de s'effondrer, les masses se mettent en mouvement, si je puis dire, et qu'à partir de là, un cycle s'ouvre. Et vous avez eu des débats, d'ailleurs certains historiens de la Révolution disant que le parallèle avec 1789 avait plutôt tendance à obscurcir la compréhension de la situation qu'elle n'éclaire, mais ce qui est certain, c'est que des mots d'ordre spontanés qui peuvent émerger dans ce type de mouvement, eh bien, pour la première fois dans l'histoire contemporaine, ils avaient été proclamés en France pendant cette séquence-là. Juste, puisqu'on parle de situation mondiale, c'est un débat, mais tout de même, il faut signaler, la Révolution française n'est pas non plus isolée en son temps, et elle s'inscrit dans un cycle plus large. Il y a la Révolution américaine, qui n'a pas ce caractère d'universalité, mais qui tout de même est présente, et vous avez une série de mouvements en Allemagne, en Belgique, dans ce qu'on appelle les Provinces-Unies, les Pays-Bas actuels, globalement. tous ces mouvements-là avaient déjà un caractère international, même si, encore une fois, les principes les plus forts ont été proclamés en France et suivis des faits, si je puis dire.
Vous y faites référence dans votre livre, je renvoie nos auditeurs à sa lecture. Un des éléments forts de cette révolution 1789, Bertrand Badi, c'est la royauté mise à bas, l'exécution de Louis XVI et de sa famille. Finalement, cet aspect de la Révolution française n'a pas été un exemple très suivi.
Alors, justement, et ça rejoint ce qui vient d'être dit, la grande nouveauté de la Révolution française, d'abord, ça a été le peuple qui entre sur la scène. Il y a eu des révolutions avant, effectivement, au XVIIe siècle, 1640, en Angleterre, une révolution, mais c'est pas une révolution sociale, c'est une révolution qui se fait entre le Parlement et la royauté. Alors on va trancher la tête de Charles Stuart, mais c'est un jeu interne, c'est un jeu d'élite, en quelque sorte. La révolution américaine n'a pas été non plus une révolution sociale. Là, on a affaire à la première révolution sociale, c'est-à-dire, je dirais, la symbolique de la substitution du peuple au souverain. Ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau et qui, effectivement, va faire école. Et c'est pour ça qu'effectivement, la comparaison avec le printemps arabe est intéressante, parce que le printemps arabe, finalement, a commencé par une éruption totalement désorganisée de la société au sein de systèmes politiques dictatoriaux. Et donc, on voit bien la ressemblance. La grande différence, c'est que la Révolution française avait son transformateur, c'est-à-dire les masses entrent en ordre tout à fait dispersé dans le mouvement révolutionnaire, et peu à peu, des acteurs politiques qui ont été cités il y a un instant, vont assurer la transformation de cette révolution sociale en nouvel ordre politique, d'ailleurs chaotant, instable, mais quand même, il va y avoir une transformation de l'ordre politique. Printemps arabe, ça n'a pas marché parce qu'il n'y a pas eu de transformateur de cette éruption de la société. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, le destin du roi n'était pas scellé. À un moment, c'est tout à fait significatif. On a même songé à faire, à l'occasion de la fête de la Fédération, le véritable 14 juillet 1790, on a voulu faire de Louis XVI l'empereur des Français. C'est-à-dire que 2 ans et demi avant d'être guillotiné, il était question de faire de Louis XVI ci-devant Capet un empereur, et un empereur des Français, non pas de la France. Donc il y avait une certaine hésitation. À la limite, ce n'était pas le problème fondamental. D'ailleurs, vous savez par quel effet de conjoncture, finalement, cette décapitation a eu lieu, et vraiment de manière tout à fait limite, à une voix près, etc. On connaît bien cette histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce n'était pas le problème. Le problème, c'était l'appropriation par la société, l'appropriation par le peuple et l'appropriation par ses représentants. Ce qui est intéressant parce que ça engage une autre face qu'on oublie toujours trop vite, c'est l'invention, non plus cette fois-ci de la nation et de la souveraineté nationale, mais du gouvernement représentatif. Ce que M. Rousseau n'aurait pas appelé démocratie, mais aristocratie, et régime sous lequel nous vivons encore aujourd'hui. Il ne faut pas oublier toutes ces choses-là. Donc, le vrai problème, c'était cette recherche-là. Comment va s'incarner cette souveraineté ? Ce n'était pas le problème du devenir du personnage roi. Ce n'était pas là le problème. Et ça, c'est intéressant parce que, pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est une histoire à rebond permanent. On a un peu l'impression que depuis que la monarchie absolue a été abolie, la France est à la recherche de son gouvernement, comme la plupart des pays d'Europe occidentale. Que le gouvernement représentatif est une forme de compromis implicite, parce qu'on n'ose jamais dire que nous sommes sous la gouverne d'un gouvernement représentatif, on dit on est en démocratie. Non, on n'est pas véritablement en démocratie, faut pas l'oublier. Mmh. C'est une des leçons de la Révolution
française. Alors, je reste quand même sur cette mise à bas de la royauté en France. Est-ce que ça veut dire que les autres monarchies ont su s'adapter ou que les peuples ailleurs n'ont pas osé aller jusque-là, Jean-Numa Ducange ?
Ce qui est certain, c'est que Louis XVI n'était probablement pas le monarque le plus exceptionnel de la famille des Bourbons. Vu les précédents, ceci dit, ceux d'après, quand ils auront rétabli la monarchie, tireront pas mieux de la situation. Il faut quand même nuancer un petit peu, c'est-à-dire que en 1789, bon, d'une part, à ce moment-là, personne ne remet en cause l'autorité royale, ça vient très progressivement, dans le feu de l'action, si je puis dire, et sous pression populaire. Mais tout de même, depuis que Louis XVI a été exécuté, le principe monarchique, cette fois-ci de façon effectivement plus universelle qu'en Angleterre, a été mis à bas une bonne fois pour toutes. Il a été désacralisé auprès des masses, si je puis dire, qui, d'ailleurs, une partie d'entre elles, joueront un grand rôle, ce qu'on appelait la déchristianisation, parce que c'était un enjeu fondamental. Ensuite, beaucoup de royautés ont été contestées, est remise en cause. Bon, l'exemple le plus spectaculaire, on en reparlera peut-être, étant celle des Romanov, qui était une des plus vieilles dynasties. Cela étant dit, l'Angleterre, puisque c'est l'exemple qui a été cité, a effectivement une spectaculaire la longévité politique en termes de système, en termes de système même représentatif, puisque Chambre des Lords et de Communes existant sur les fondements remontent à l'époque médiévale. Mais effectivement, on peut dire que certains pays, certains gouvernements ont eu une capacité à gérer des compromis politiques très tôt avec les courants socialistes, le mouvement ouvrier ensuite, alors qu'en France, parce qu'il y a eu ce processus révolutionnaire à la base, on est entré dans une phase d'incertitude et d'équilibre politique instable. Mais c'est aussi pour ça que certains principes non spécifiquement français ont été énoncés et repris ensuite par toute une série de courants. Il y a eu une instabilité qui a entraîné toute une série de constitutions, un nombre record de constitutions en très peu de temps en France pendant la Révolution. Bon, vous avez des choses concernant la critique de la propriété privée qui était inenvisageable avant et qui ont été largement repris ensuite. Donc le bilan est un peu plus modéré que ça. Si j'allais au bout de la réflexion sur l'Angleterre, je dirais que tout de même en Angleterre, vous avez ensuite des syndicats, des trades unions très puissants, certes rapidement assez modérés, mais à leurs origines, vous aviez des gens qui se réclamaient de l'héritage de la Révolution française pour faire avancer leurs idées. Donc certes, la monarchie n'a pas été remise en cause, mais d'une certaine manière, l'héritage de la Révolution a aussi traversé la Manche.
Alors je m'accroche à la chronologie telle que vous l'avez définie tout à l'heure, pour évoquer cette période qu'on appelle la terreur. Elle semble avoir fait des émules, elle, par contre, cette terreur, cette nécessité de préserver, Bertrand Badie, les acquis du changement par tous les moyens, y compris les plus brutaux, ça a eu un certain succès dans le monde.
Et c'est devenu l'élément constitutif de toute révolution. C'est-à-dire, la Révolution française a établi dans l'histoire ce que la Révolution anglaise aurait pu faire d'un certain point de vue, mais elle n'était pas assez sociale pour ça, que de toute manière, on ne peut pas faire d'omelette sans casser les œufs, pardonnez la vulgarité de la comparaison, mais surtout qu'il y aura nécessairement une période autoritaire comme marque de la transition. Alors après, ça va rebondir avec la Révolution de 17, avec l'idée de dictature du prolétariat, et d'une façon générale, l'idée qui va se répandre comme une traînée de poudre pendant tout le XXe siècle, et d'un certain point de vue encore aujourd'hui, à savoir que sans un ordre autoritaire, on ne peut pas créer les conditions de la rupture. Ça, c'est quelque chose de véritablement établi. Et c'est intéressant parce que c'est en contradiction même avec ce qui est censé porter la Révolution. Vous parliez de l'Angleterre tout à l'heure, mais faut quand même pas oublier que l'Angleterre est devenue une monarchie constitutionnelle bien avant la France, même s'il n'y a pas de constitution en Angleterre, ne serait-ce que parce que les représentants ont dit, mais attendez, nous on a d'autres mots à dire. C'est des révolutions parlementaires, tout ça.
Alors, est-ce que la Révolution, juste pour rebondir sur cette idée de Bertrand Badie, est-ce que la Révolution passe forcément par la terreur, désormais, Jean-Numa Ducange?
Toute révolution est intimement liée à son contraire. Ça a été beaucoup travaillé aussi. C'est la contre-révolution. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer, ce qui est difficile, même lorsqu'on a longuement travaillé dessus, l'effroi que provoque la Révolution française à l'étranger, à plus forte raison lorsque la République est instaurée en septembre 1792. Et certes, vous avez les mesures donc prises dans le cadre du gouvernement d'exception qu'on qualifie de terreur, et il y a des mesures de répression absolument incontestables, mais ce qu'on va essayer de faire les révolutionnaires français, et ils n'y parviennent pas, dans une certaine mesure bien sûr, puisqu'ils sont renversés en juillet 1794, c'est d'inventer quelque chose, un historien qualifie bien cela, Michel Biard, c'est fraternel et fratricide. Fratricide parce qu'ils sont en guerre face à l'étranger, face à des coalitions. Fratricide aussi parce qu'il y a une guerre civile qui se développe à l'intérieur du pays. Alors, on peut toujours dire que c'est de la cause de la Révolution, mais dans ce cas-là, il ne fallait pas remettre en cause l'ordre d'Ancien Régime, donc c'est extrêmement complexe. Et de l'autre côté, à côté de cet ordre fratricide, il y a l'idée d'une fraternité nouvelle et qu'il faut avancer le plus possible des projets sociaux. Et vous avez des projets qui ne vont pas donner lieu à grand-chose dans un premier temps, mais par exemple, Saint-Just proclame dit des décrets de Ventose, vous avez un livre de bienfaisance nationale, tout ça c'est l'embryon de ce que sera bien évidemment, et bien plus tard, une sorte d'état-providence avec une sécurité sociale. Toutes ces choses-là sont pensées, déjà. C'est la période de la terreur, ça le paradoxe qu'il faut bien comprendre.
Nous sommes en compagnie de Bertrand Badie, professeur en sciences politiques, et Jean-Numa Ducange, maître de conférences en histoire contemporaine. En ce 14 juillet, on évoque les échos de la Révolution française et nous verrons tout à l'heure si cette révolution continue d'alimenter aujourd'hui ce désir de démocratie, de liberté, d'égalité, de fraternité. Restez à l'écoute de RFI.
Géopolitique. François Bernard.
Merci de votre présence à l'écoute de Géopolitique qui s'intéresse aujourd'hui, 14 juillet, à l'influence qu'a eue la Révolution française dans la marche du monde. Alors si vous avez manqué la première partie de cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre site internet. On a évoqué tout à l'heure la période révolutionnaire, les idées qu'elle a générées, les revendications qu'elle a suscitées avec deux invités. Bertrand Badi, professeur en sciences politiques à Sciences Po, dernier ouvrage, enfin un des derniers, qui s'intitule « Le temps des humiliés ». Publié chez Odile Jacob, et Jean-Numa Ducange, maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université de Normandie, à Rouen, auteur de La Révolution française et l'histoire du monde, deux siècles de débats historiques et politiques. C'est chez Armand Collin. Merci encore à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Alors, la Déclaration des droits de l'homme, ce texte fondateur de la Révolution française qui a traversé les siècles, est-ce qu'il a vieilli, Bertrand Badi?
Il a incontestablement vieilli, mais c'est très incorrect de dire ça. C'est-à-dire que c'est une idée que l'on a du mal à imposer, à faire passer. Non seulement le texte de la Révolution française, mais si vous prenez ce qui a été son actualisation et son universalisation avec le texte de 1948, qui a été proclamé Déclaration universelle des droits de l'homme le 8 décembre 1948, vous apercevez que des enjeux majeurs, effectivement, sont ignorés. Comment voulez-vous que en 1789 et même en 1948, on ait en tête les problèmes d'environnement, les droits sociaux, même si ceci commence à s'ébaucher sous la pression du camp socialiste d'ailleurs en 1948, le développement et beaucoup d'autres choses encore. Et puis il y a quelque chose de plus intime, je vais dire encore une deuxième chose incorrecte, c'est que ce passage à l'universalité qui accompagne l'histoire des révolutions hein, depuis qu'elles sont constituées, et cette association d'idées universelles avec la Révolution française, c'est une association très forte, elle est démentie par le fait que ce texte et celui qui va surgir dans sa foulée en 1948 aura été écrit que par une toute petite minorité de l'humanité. Et c'est là que commence véritablement le drame. C'est-à-dire, quelle curieuse façon de proclamer les droits universels de l'homme, ou de l'humain, dirait-on aujourd'hui, quand ceux-ci sont définis et de facto imposés par une petite fraction, 10% de l'humanité. Et nous en sommes là, c'est-à-dire que si l'on était dans une vision idéaliste des droits de l'homme, il faudrait réécrire la Déclaration universelle des droits de manière à ce que tout le monde y soit associé. Alors, la petite contradiction, mais qui en fait est sanglante, c'est qu'effectivement, à mesure que va naître un Sud, ce qu'on a appelé le tiers-monde dans les années 60-70, la référence à la Révolution française fera d'autant mieux passer l'idée d'universel que c'est sur la conception révolutionnaire de la nation que les grands décolonisateurs et émancipateurs vont s'appuyer pour mobiliser. Et donc, la Révolution française va être annexée un peu partout, en Afrique, en Asie, dans tout ce monde qui est en train de se décoloniser, au nom des principes de la Révolution, à prix du colonisateur. Mais une fois passée cette fièvre révolutionnaire et émancipatrice de la décolonisation, vient le vrai problème, construire un nouvel ordre politique. Et participer à la gouvernance mondiale. Que veut dire participer à la gouvernance mondiale si les grands textes qui régissent celle-ci sont inspirés, écrits par une toute petite minorité? Les Nations Unies, 51 membres en 1945 lorsqu'elles ont été créées, 193 maintenant. Il y a quelques iotas de la Charte des Nations Unies qui ont été changés. Et c'est tout.
Dans le prolongement de ce que dit Bertrand Badi, cette devise de la Révolution, liberté, égalité, fraternité, c'est selon vous, Jean-Numa Ducange, un vœu pieux ou c'est un long processus qui est en cours?
C'est un long processus qui est en cours plutôt parce que, pour prendre quelque chose d'évident et d'élémentaire, il a été fait question, allusion à la question de l'écologie, si on prend même la question des femmes, du féminisme, chose qui a été beaucoup débattue ces dernières années, ces derniers mois même, bien évidemment, dans un premier temps, l'universalité, pour beaucoup de révolutionnaires, ne comprend pas les femmes. Et c'est ensuite, à partir de ce texte-là, entre autres, que des femmes vont se mobiliser pour dire « Nous avons aussi, nous, le droit à ces déclarations des droits de l'homme ». Une actrice de la Révolution française, Olympe de Gouges, qui va justement faire une déclaration des droits de la femme pour dire « N'oubliez pas cette moitié, au moins moitié du genre humain ». Et ce qui est intéressant aussi, toujours cette question des femmes, parce que ça, c'est une question qui a été beaucoup travaillée par toute une série de gens pour des raisons évidentes. Qu'est-ce que c'est que cette déclaration au départ, si je puis dire, les femmes n'ont pas le droit de parler. C'est que, par exemple, les femmes demandent le droit de porter les armes dans un premier temps. C'est quelque chose de très important pendant cette période-là. Et puis ensuite, bien évidemment, le droit de suffrage. Et comme on le sait, la première fois que la République va donner le droit de vote à tout le monde, suffrage universel, maintenant tout le monde dit bien sûr que c'est le suffrage universel masculin qui avait été donné. Donc c'est quelque chose qui était limité de ce fait en son temps, mais tout au long du 19e, les suffragettes, toute une série d'actrices, Flora Tristan, lorsqu'elles voudront réclamer plus de droits pour les femmes, elles se baseront sur ces textes qui sont certes insuffisants en leur temps, et par les acteurs qui, effectivement, très peu nombreux qui l'ont élaboré, mais tout de même, on se référera à elles pour la prolonger. Je crois qu'un des grands enjeux de la Révolution française, il y a à la comprendre en son temps, analyser les acteurs, et c'est de voir que malgré toutes ces imperfections, malgré le fait que les femmes étaient très peu intégrées à certains processus, malgré les mesures répressives auxquelles nous avons fait allusion au départ, eh bien, à chaque fois, ça reste un point de référence à partir duquel il faut réfléchir et penser les mouvements sociaux et politiques à venir. L'exemple de ce point de vue-là, la décolonisation était très juste. Bien évidemment, dans la décolonisation, le modèle d'octobre 17, de l'Union soviétique, de la Chine maoïste, tout ça est très présent. Mais tout de même, j'ai toujours en mémoire, je paraphrase, j'ai pas la citation exacte, mais Malraux, dans ses anti-mémoires, là, qui sont regroupés dans le miroir des limbes, dit toujours, bon, évidemment, il rencontre Mao, Chou Enlai, il dit, bon, tout le monde, évidemment, se base avant tout sur la révolution russe à cette époque-là, c'est ça qui fait beaucoup plus sens. Mais tout de même, il dit, leur langage reste un peu français, parce que dans beaucoup de mouvements de décolonisation, il y a encore une grande admiration pour la Révolution française, alors même qu'elle est limitée, elle n'est pas du tout socialiste, bien sûr, etc. Mais tout de même, c'est de là que, entre guillemets, leur grande histoire a commencé. D'accord. Et donc ça demeure quelque chose présent dans l'imaginaire collectif jusqu'à nos jours. Il n'est pas rare, même quand vous voyagez un peu, rencontrez des acteurs divers, que la Révolution française demeure quelque chose qui est présent et susceptible d'être un point de départ, de réflexion, parce que tout de même, il y a eu ces grands textes, ces grands mouvements sociaux qui ont beaucoup marqué, pas seulement donc l'histoire de France.
Alors, prenons quelques exemples de révolutions dans le monde qui postérieures à 1789. Vous me direz si vous pensez qu'elles ont des liens forts avec leurs grandes sœurs françaises. On va essayer de passer rapidement sur ces quelques exemples. J'ai plein de questions à vous poser, bien évidemment. Après cela, la révolution russe de 1917, Bertrand Badie.
Explicitement. Ouais. Explicitement, le personnel politique de la Révolution russe s'inspire de la Révolution française qui devient en quelque sorte le symbole. Encore une fois, la Révolution française, c'est la première révolution sociale dans le monde. Je reprends les termes qui ne sont pas les miens, mais ceux d'une politiste américaine, Theda Schokpol, qui expliquait trois révolutions sociales, la Révolution française, la Révolution russe, la Révolution chinoise, et comme telle, elle va être porteuse sur le plan symbolique, sur le plan de la méthode. On parlait tout à l'heure de la terreur, on va retrouver effectivement sa réalité dans l'histoire de la Révolution russe. La contre-révolution aussi, ce qui était dit tout à l'heure. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une dissociation qui se fait immédiatement. C'est-à-dire que la Révolution française éclate en deux dans la mémoire collective. Il y a la Révolution comme émancipation et il y a la Révolution comme construction. La Révolution comme émancipation, elle va être véritablement universelle. Et il faut pas oublier une chose, c'est que, notamment dans le processus de décolonisation, les grands libérateurs des pays du Sud, à partir, je dirais, de la vague des années 50-60, ce sont des libérateurs, ce sont pas des constructeurs. Il n'y a jamais eu de bâtisseur d'État qui a suivi la décolonisation. C'est la grande contradiction de la décolonisation. Et donc, cet imaginaire institutionnel qui était celui de la Révolution française, avec sa première constitution qui a été ainsi élaborée, ne passe pas du tout. Et encore moins, effectivement, l'institution de ce gouvernement représentatif qui est quand même le fruit de la Révolution française. Ça, on le retrouvera nulle part là où se produisent des grandes révolutions sociales ou des grands mouvements de décolonisation. Donc c'est l'aspect émancipateur. Et avec le printemps arabe, ça va être la même chose. Quel a été le cri du printemps arabe ? Karama. Karama, c'est la dignité. On veut la dignité. Il ne s'agissait pas d'un projet institutionnel et constitutionnel, et surtout pas de démocratie.
Et alors, Je passe, vous auriez sûrement beaucoup de choses à dire sur cette révolution russe, mais j'aimerais vous entendre, Jean-Numa Ducange, sur 79, la révolution en Iran, la chute du Shah. Différents points communs.
Alors, la révolution en Iran, comment dirais-je, vu la façon dont elle se termine, est extrêmement différente de la révolution française, bien sûr. Il faut savoir que la révolution iranienne, au départ, était animée, y compris par des mouvements de gauche, c'est un des partis communistes les plus puissants de la région, qui était aussi très actif, et la révolution iranienne s'est retournée contre la gauche, très, et même en termes de répression, de façon très impressionnante. Mais ce qui me paraît plus intéressant en termes de comparaison, puisqu'après tout, comme le dit Amin Bozarslan, qui est un des spécialistes de cette question, il dit « la révolution iranienne est une révolution modèle ». On ne peut pas faire comme si c'était juste quelque chose dédié à un pays et qui n'a aucun message plus largement. Mais le même Bozarslan parle justement de façon significative de rétrécissement de l'universel. C'est-à-dire que la révolution iranienne s'adresse à une population donnée, à une religion donnée, dans une sphère géographique et ou, si je puis dire, religieuse donnée. De ce point de vue-là, la révolution iranienne, que l'on peut considérer comme une révolution, à partir du moment où elle change un ordre politique, économique et social, ça se discuterait plus, parce que il n'y a pas de changement peut-être aussi radical que, par exemple, le transfert de propriété, qui est pendant la Révolution française, les biens nationaux qui ont été vendus, qui ont été transmis par vente, donc, de l'aristocratie à une partie de la bourgeoisie, pour le dire vite. Mais il peut y avoir des points communs sur le fait que, à partir du moment où des acteurs se réclament d'un processus révolutionnaire et qu'il y a rupture, il n'est absolument pas illégitime de la comparer. Mais après, bien évidemment, tout de même, la révolution iranienne n'a pas eu ce message absolument universel par, je dirais, sa définition même dès le départ. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont différentes. À la différence de la révolution russe, qui, par bien des aspects aussi différents de la notion de citoyenneté de la Révolution française, puisque ça s'adresse avant tout à la classe ouvrière internationale, mais la Révolution russe veut fonder des partis communistes dans tous les pays du monde, dans tous les villages du monde, par solidarité avec ce qui vient de se passer en URSS. Bien évidemment, la Révolution iranienne n'entraîne pas ce même type de processus. Donc cette dimension-là me paraît fondamentale pour bien dissocier, si je puis dire, les deux processus révolutionnaires. Après, on pourrait longuement disserter sur le fait que, vu ce qui s'est passé en Iran, c'est tout à fait contraire aux droits de l'homme et ce qui était proclamé en 1789, mais là, je parle plus de la révolution comme concept, comme modèle proposé dans les deux cas.
Est-ce que je peux... Non, bah, parce que là, j'ai un léger désaccord, il faut bien qu'il y ait ça dans une émission. D'abord, je pense que quand on parle de la révolution iranienne, il faut penser à la première de la révolution iranienne, qui n'est pas celle de 1979, mais celle de 1906, qui est une révolution constitutionnelle, ce qui est quand même rarissime dans cet espace géographique, culturel et politique, et qui s'inspire beaucoup de la Révolution française. Parce que c'est justement la tentative de mettre en place un gouvernement représentatif contre le despotisme. Et cette révolution constitutionnelle, elle reste dans la mémoire. Et elle a, en quelque sorte, fusionné avec la révolution de 1979. Et c'est la raison pour laquelle il y a bien ce tracé issu de la révolution française. Le deuxième élément, c'est qu'il y a quand même un élément d'apparentement très fort entre la révolution de 79 et celle de 1789. C'est la même volonté d'émancipation par rapport à des dominations extérieur. Tout à l'heure, je citais le chant du départ, tyran descendait au cercueil. Là, c'est un petit peu différent. C'est une révolution d'émancipation contre les tutelles impériales et néocoloniales. La dénonciation des États-Unis, la dénonciation de l'impérialisme, une espèce de deuxième âge du tiers-mondisme et qui focalise. Et c'est pour ça d'ailleurs que la gauche iranienne se retrouvait, le Today, les Mossadegh se retrouvaient dans cette idée d'une révolution émancipatrice. On va inviter tout de suite Yasser Arafat, on va porter la banderole de la revendication nationale palestinienne face à l'État d'Israël. Et là, il se passe quand même tout un tas de choses qui continuent aujourd'hui à marquer, je dirais, l'imaginaire révolutionnaire iranien. Et puis, enfin, un troisième élément, c'est que, bien sûr, cette révolution iranienne, elle ne peut pas s'universaliser pour une raison bien simple, c'est que le modèle chiite iranien n'a pas de correspondant ailleurs. Donc effectivement, on ne trouve pas cette armée de mollahs, de clergés qui pourraient structurer la révolution. En revanche, elle va être dans l'inconscient de tous ceux qui, dans le monde musulman, veulent résister à l'oppression et à la dictature, un premier modèle. C'est-à-dire, la révolution islamique est possible.
Ça m'amène à la question suivante que je me posais. Sur l'héritage, la revendication de l'héritage révolutionnaire, quelles sont, Jean-Numa Ducange, les forces politiques qui, dans le monde, peuvent aujourd'hui être considérées comme les héritières des principes de 1789?
Disons que, Vous avez la tradition socialiste, social-démocrate, communiste à une époque, toutes ces traditions de gauche issues de ce que l'on appelait à une époque un ensemble du mouvement ouvrier et des syndicats, toutes ces structures qui existent quand même dans beaucoup de pays dans le monde et qui parfois sont amenées à gouverner, eh bien souvent, pour avoir un peu travaillé là-dessus, quand vous regardez leurs textes fondateurs, à quoi ils se réfèrent, d'où ils viennent, il est très fréquent d'avoir comme un des points de départ, pas nécessairement le seul, la Révolution française, voire la République française comme premier exemple d'une émancipation politique, etc. Donc ça c'est très important, y compris d'ailleurs dans des pays du tiers-monde où on met davantage l'accent sur la première abolition de l'esclavage en 1794. Donc de ce point de vue-là, on peut considérer que celles et ceux qui s'inscrivent dans ces courants politiques-là continuent d'une certaine manière à se réclamer dans la Révolution française. Après, si vous prenez le monde entier, bon, je vais juste prendre quelques petits exemples, vous avez des tendances différentes selon les lieux. En Amérique latine, par exemple, pour toute une série de raisons liées notamment aux indépendances, aux affirmations dès le 19e siècle, la Révolution française a beaucoup marqué les courants politiques de la gauche latino-américaine, par exemple. Et un des paradoxes, parce que, évidemment, en 1989, c'est la chute du mur de Berlin, du socialisme réel et la décomposition de l'URSS, mais c'est que, à cette époque-là, toute une série de pays, comme l'URSS, même la Chine, se disait d'une certaine manière dans la continuité de 1789 pour la dépasser, en disant qu'entre-temps, il y avait eu 17, il y avait eu la révolution chinoise de 1949, mais que tout de même 1789 était un point de départ. Donc si on fait un panorama global, on est surpris, parce que vous pouvez avoir des mouvements très divers se réclamant de la Révolution française comme point de départ. Mmh. Alors après, si vous élargissez plus largement, bon, puisqu'on parlait de révolution islamique, ce qui est intéressant, si je puis dire, dans ce que l'on peut lire dans la revue de Daesh, vous aviez parfois quelques articles explicitement contre la France, mais aussi explicitement contre la Révolution française et son héritage, comme point justement à critiquer spécifiquement. Voilà. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que dans des cas comme cela, on peut avoir des exemples où la Révolution française reste présente dans l'imaginaire collectif, c'est pas, même si les gens encore une fois la connaissent pas très bien, c'est quelque chose de fort et d'ancré. Quand on parle de la France bien sûr, mais pas seulement, y compris à l'étranger, parce que qui dit France dit République, dit un peu la Révolution le 14 juillet, etc. Donc tout ça reste extrêmement présent dans l'imaginaire, et de ce point de vue-là, vous avez des héritiers, et ceux qui se proclament, comment dirais-je, très hostile à un certain nombre de valeurs issues de la Révolution française, n'hésite pas à se revendiquer contre aussi.
Alors, on est quasiment à la fin de l'émission déjà. Je voudrais, pour finir, vous soumettre cette phrase d'Albert Camus. Il dit « La Révolution est l'alibi des nouveaux tyrans ». Qu'est-ce que ça vous inspire, Bertrand Badi ?
C'est ce que l'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la Révolution nécessairement crée une pulsion autoritaire dans la dialectique de la révolution et de la contre-révolution, dans la dialectique de la consolidation, et puis dans la dialectique de l'aubaine aussi. C'est-à-dire que, à partir du moment où la révolution a éradiqué un pouvoir, il y a des appétits de pouvoir. Le phénomène Bonaparte est, de ce point de vue-là, parfaitement éclairant. On a envie de prolonger cette phrase en disant, mais toute révolution, finalement, est faite pour être trahie. Presque immédiatement par ses pulsions autoritaires, par ses violations manifestes des droits de l'homme, par ce caractère finalement très anti-humaniste d'une révolution qui par définition se voulait humaniste puisque c'était la réappropriation par la société des forces sociales du politique, et à plus long terme aussi cette trahison. Moi ce qui me frappe c'est de voir comment aujourd'hui, en France d'abord, mais dans quantité de pays, la Révolution française, l'idée de nation qu'elle a produite, ont été complètement détournées. Mmh. C'est-à-dire comment, effectivement, cet ethno-nationalisme et ce populisme nationaliste qu'on voit naître, cet erdogano-poutino-trumpisme, vient en quelque sorte renverser l'idée de nation. L'idée de nation est maintenant utilisée comme fermeture, comme exclusion, comme intolérance, alors que la nation était là justement pour ouvrir la porte au droit.
C'était le cri « Vive la nation » pendant la Révolution française, à un sens tout autre que ce qu'on pourrait entendre aujourd'hui.
Absolument.
Allez, on n'en dira pas davantage aujourd'hui. Merci à tous les deux, Bertrand Badi. Je rappelle le titre de votre livre « Le temps des humiliés » publié chez Odile Jacob et Jean-Numa Ducange. Le vôtre, c'est « La Révolution française et l'histoire du monde, deux siècles de débats historiques et politiques ». C'est chez Armand Collin. Merci également à Véronique Durand qui a préparé cette émission, Nathalie Laporte qui la réalise. Pas d'émission ce dimanche pour cause de finale de Coupe du Monde de foot. RFI diffuse en effet l'intégralité du match sur nos antennes. Prochain rendez-vous donc samedi prochain, on évoquera à l'occasion de la célébration du centenaire de l'assassinat du dernier tsar de Russie, la conception du pouvoir du nouveau maître du pays, Vladimir Poutine. Restez à l'écoute de RFI. Un nouveau